La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Alain Policard, qui est chercheur associé au Sciences Po, au CEVIPOF, et qui est l'auteur d'ouvrages récents, qui s'appelle La haine de l'antiracisme, qui a été publié aux éditions textuelles, mais aussi qui a co-dirigé avec Stéphane Dufoy un livre qui s'appelle L'universalisme en débat, débat S, entre parenthèses, débat au pluriel entre parenthèses, aux éditions du Bord de l'eau, et qui a fait paraître une tribune très intéressante dans le journal Le Monde, daté du jeudi 19 octobre 2023, avec Anna Zielinska, qui s'appelle « Dans l'ivresse de la vengeance, les voix de ceux qui veulent la paix au Proche-Orient sont presque inaudibles ». Ben, Alain Policard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vu que c'est plus par rapport à ce qui se passe à l'actualité en ce moment, on va plutôt s'intéresser d'abord à cette tribune, ce texte que vous avez fait par rapport à la situation donc au Proche-Orient depuis le 7 octobre, et puis après on va plus intéressé au contenu de votre ouvrage, mais qui parle aussi de ces choses-là. Donc, vu que ça se rejoint, ça sera un peu dans le même sujet. Mais tout d'abord, si vous pourriez nous dire pourquoi, avec Anna Zielinska, qui est maîtresse de conférence en philosophie morale, juridique et politique à l'Université de Lorraine, où elle dirige l'unité Égalité, Diversité et Inclusion, pourquoi vous avez voulu faire cette tribune très, très intéressante, où en fait que vous dites que face à la surenchère qui est menée tant par les dirigeants israéliens que ceux du Hamas, que les voix juives ou arabes qui souhaitent un règlement du conflit ou une paix, elles sont presque inaudibles depuis donc cette catastrophe qui est inédite dans l'histoire d'Israël depuis 1948.
Oui, elles sont encore plus inaudibles aujourd'hui que le 18-19 octobre, lorsque Anna a eu l'idée effectivement d'écrire cette tribune. Nous l'avons ensuite peaufinée ensemble. Oui, c'est très difficile de dire aujourd'hui, dans ce contexte de violence que l'on a connu, qui ne fait que prolonger une situation, vous le savez, extrêmement durable, très difficile de dire qu'il faut faire entendre les voix de la paix, et notamment celles des mouvements, souvent d'ailleurs des mouvements de femmes, comme les guerrières de la paix, et comme beaucoup d'autres, qui cherchent effectivement des chemins de conciliation, que de l'extérieur on peut croire possible, et pourtant depuis 65 ans environ, eh bien, les choses n'évoluent pas dans le sens que nous aurions souhaité. Alors, dans le contexte, on a voulu dénoncer effectivement les massacres de masse commis par le Hamas, en utilisant d'ailleurs le terme de pogrom, qui n'est pas forcément le mieux adapté, mais enfin, on avait bien là quand même l'imaginaire du pogrom, et l'horreur de ces crimes nous avait évidemment révulsés. Mais une fois qu'on a dit « c'est absolument odieux, injustifiable », on s'est également dit « il fallait peut-être chercher tout de même à comprendre comment on est arrivé là » et comprendre ici, évidemment, ça n'est pas excusé. Et comprendre, c'est se dire que la politique de colonisation menée par Israël depuis au moins 1967 et plus encore peut-être depuis l'aventure malheureuse au Liban en 82 est largement à l'origine d'une situation de désespoir dans les territoires occupés. Et bien entendu, on a voulu dire que beaucoup d'Israéliens avant nous avaient signalé cette difficulté pour Israël de rester un État démocratique dans un contexte de colonisation. Donc voilà, on a cherché à le dire, on l'a dit assez vite, d'autres textes extrêmement intéressants sont parus ensuite, et puis il y a eu quelques dérapages qui viennent, hélas, enfin de l'extrême droite, ça ne surprend personne, mais l'extrême droite est plus anti-arabe qu'antisémite en ce moment, mais deux, aussi l'extrême gauche, qui n'a pas toujours compris, effectivement, l'horreur ressentie par la population israélienne, par les juifs en général, et par, je dirais, les démocrates, devant ces crimes abominables qui ressortent d'une idéologie tout de même fascisante, hein, une idéologie islamiste fascisante et terroriste, on l'a dit souvent, mais qui est aussi une idéologie profondément antisémite, qui ne joue pas, à mon sens, en faveur de la libération de la Palestine, contrairement à ce qu'il revendique.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous citiez une grande voix israélienne qui s'appelle Yeshayahu Leibovitz, hein, et dans le passage que vous citez, hein, de lui, hein, bon, qui est décédé il y a quelques années, mais c'est un passage assez intéressant où il disait que, donc depuis la guerre de 1967, hein, l'État d'Israël était devenu un appareil d'oppression sur un autre peuple, à savoir le peuple palestinien, et que ses énergies elles étaient tendues vers ce but de perpétuer l'oppression, et qu'il ajoutait lucidement que le problème au fond d'Israël, c'est moins de libérer la Palestine, bah de ça les Palestiniens eux-mêmes ils vont s'en charger, le problème c'est de libérer l'État d'Israël en le délivrant justement de cette occupation, de ce joug de territoire. Enfin voilà, c'est plus comment la société israélienne elle-même, elle aurait... par rapport à ça, la question à se poser par rapport à ça. Quoi.
Oui, d'ailleurs, d'autres grandes personnalités ou figures de la pensée juive ou d'Israël avaient dit des choses équivalentes. Je me souviens d'une tribune dans Le Monde il y a assez longtemps de l'ancien président de la Knesset, Abraham Bourg, qui disait clairement que l'État ne pouvait pas être à la fois juif et démocratique, qu'il y avait là une tension extrêmement forte, voire une contradiction. Il avait alerté là-dessus, et depuis, les choses se sont profondément aggravées, puisque la nature juive de l'État a été mise dans la Constitution, ce qui éloigne d'autant plus l'idéal, évidemment, idéal peut-être hors d'atteinte, même intellectuellement aujourd'hui, l'idéal d'un État binational qui avait été défendu par quelques intellectuels prestigieux, comme Martin Buber, avant la création d'Israël. C'est une histoire extrêmement longue d'incompréhension, et aussi qui met en lumière, si vous voulez, l'aberration de l'idée sioniste fondamentale selon laquelle on allait résoudre le problème juif par par la colonisation de la Palestine, dans la mesure où on imaginait que c'était un peuple sans terre, et on disait un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Un peuple sans terre, je veux dire les juifs, et la terre sans peuple, les palestiniens. Alors c'est vrai pour la première partie de la phrase, les juifs étaient bien un peuple sans terre, mais il y avait des habitants en Palestine, qui d'ailleurs parfois étaient des habitants juifs, puisque la présence juive en Palestine, elle est effectivement avérée depuis la destruction du Second Temple, c'est-à-dire en 70 après Jésus-Christ, et il y a eu beaucoup de mouvements d'installation, colonies de peuplement, comme on disait, sans la connotation négative que le terme de colonie a pu prendre après, vers la fin du XIXe siècle. Donc ce n'était pas une terre sans juifs, néanmoins, mais tout de même, c'était une terre où il y avait beaucoup de Palestiniens. Et la puissance occupante, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, puissance colonisatrice, a tout fait pour empêcher, je crois, que la conciliation soit possible. Il y a eu quelques massacres dans de deux côtés, massacres commis par les Palestiniens, enfin du moins par les Arabes de là-bas en 1929 à Hébron, et puis les massacres autour de la guerre d'indépendance, le massacre de Deir Yassin, très important dans l'imaginaire. Et puis, il y a eu évidemment d'autres massacres après la création d'Israël, si bien que aujourd'hui, on a au pouvoir des gens qui, au fond, ne sont pas en désaccord avec cette politique de terreur, puisque un des ministres de l'extrême droite actuelle, Smotrich, il a peut-être toujours, mais enfin, en 2015, il avait dans son bureau le portrait de Baruch Goldstein. Baruch Goldstein étant l'extrémiste juif, il avait tué 19 Arabes en pèlerinage à Hébron, au tombeau des patriarches. Donc, si vous voyez, on a là une idéologie mortifère qui valorise, dans un point de vue strictement nationaliste et racisant, l'appartenance à une communauté plutôt qu'à une autre. Et dans ces conditions-là, des gens comme moi, mais on en a d'autres, hein, sont assez peu entendus, c'est le moins qu'on puisse dire, et parfois même accusés de manque d'amour, comme on le disait pour Arendt, pour le peuple d'Israël.
Oui, et même d'ailleurs les voix critiques, comme en Israël, le journal Haaretz, qui est un peu, on peut dire, le journal de gauche, le porte-voix de la presse de gauche, a eu quelques menaces gouvernementales, comme quoi ils auraient droit à, ou des amendes ou des mesures de rétorsion à cause du fait qu'ils développaient un esprit négatif qui s'appelle le moral dans une opération militaire. Enfin bon, avec...
Oui, absolument, mais voilà. Ça, c'est tragique. C'est tragique. Enfin, d'autant plus que la responsabilité de cette attaque, évidemment, elle incombe d'abord au Hamas, mais il faut savoir que les avertissements, enfin vous le savez sans doute, les auditeurs également, les avertissements avaient été donnés comme quoi il y aurait probablement quelque chose de grave qui allait se passer, mais on a préféré mettre l'armée en Cisjordanie pour protéger les colons assassins. C'est extrêmement, du point de vue de la gouvernance de l'État, c'est extrêmement grave, et une fois l'opération Hamas terminée, il y a fort à parier que cet actuel gouvernement rendra l'âme. Maintenant, par qui, par quoi sera-t-il remplacé? La gauche est moribonde.
C'est bien le problème, d'autant qu'il y a eu un fort mouvement de lutte contre le projet de réforme quand le Benjamin Netanyahu était Premier ministre. Il voulait faire une réforme dite illibérale de la justice pour contourner la Cour suprême et un peu comme quelque chose comme il se passe en Hongrie du côté de chez Viktor Orban ou de cet ordre-là, ou comme on a pu le voir en Pologne avec le gouvernement qui était un peu sur les mêmes illibérales. Il y a eu un grand mouvement de refus qui était très très large, hein, et qui a même touché aussi des militaires. Mais c'est du fait de ces attentats du Hamas qui a complètement cassé aussi arrêté ce mouvement, et de fait. La situation,
ce mouvement-là était effectivement très puissant et on pouvait imaginer que le gouvernement ne s'en sortirait pas, mais la guerre a changé l'ordre des priorités, incontestablement.
Et c'est bien malheureux.
Et en effet.
Voilà, c'est aussi, vu qu'on parlait de votre tribune dans Le Monde, on signale, moi, la tribune, celle que j'ai trouvée la plus intéressante, hein, c'est celle de... L'écrivaine libanaise s'appelle Dominique Edé.
Remarquable tribune, remarquable.
Exactement,
tribune. La meilleure de toutes, oui, voilà, absolument.
Que je conseille à tout le monde. Alors, c'est daté dans Le Monde du mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2023. Et le titre, c'est « Nous nous trouvons au terme d'un long processus de décomposition qui aura dépecé le Proche-Orient », où en fait... Elle dit que ces attentats, le carnage, il n'a pas fait que des morts, derrière les morts et les blessés, il a aussi jeté une bombe dans les esprits et dans les cœurs, il a arrêté la pensée, et qui crée donc tous ces enfermements identitaires.
Une pensée à la fois exprimée avec une très rare élégance et extrêmement généreuse et profondément politiquement juste. Oui, Dominique Edé, c'est véritablement quelque chose de remarquable. Vous avez raison d'y insister.
Tout à fait, et donc je recommande sa tribune où elle critique à la fois la politique israélienne, mais aussi la politique des régimes arabes et toutes les répressions, de chaque régime. Et elle s'en prend un peu à chaque régime un peu autoritaire et identitaire. Et voilà, et c'est assez intéressant. Et elle cite un texte d'Edouard Saïd un peu vers la fin de son texte, un vieux texte d'Edouard Saïd des années 80, où il disait que la Palestine était saturée de sang et de violence, et que la question de Palestine, qui est malheureusement vouée à se renouveler sous des formes que l'on connaît que trop bien, mais que les peuples de Palestine, arabes et juifs, dont le passé et l'avenir sont inexorablement liés, sont aussi appelés à se renouveler. Et même si leur rencontre n'a pas encore eu lieu, elle va advenir... Et ce sera pour leur bénéfice réciproque. Bon, on espère qu'elle adviendra, mais...
Ouais, on peut toujours espérer.
Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Eh
bien,
on va faire la première pause musicale.
One
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter le groupe The Pogues, parce que le chanteur Sean McGowan vient de mourir il n'y a pas longtemps, donc on était triste, donc on a passé un morceau du groupe The Pogues, et le titre c'est A Pair of Brown Eyes. Et ben, on poursuit notre entretien avec Alain Policard par rapport à donc, son ouvrage La haine de l'antiracisme. Mais aussi l'ouvrage co-dirigé avec l'universalisme en débat avec Stéphane Dufoy. Et par rapport à cela, je voulais aussi m'appuyer un peu sur ce qui se passe, ces événements au Proche-Orient, ils ont aussi à voir en France. C'est par rapport à toutes ces questions identitaires et assignation identitaire ou voire racialisée et racisée, est-ce que ça peut obscurcir le débat ? Est-ce que ça fait par rapport à la question de l'universel ? Et j'avais lu un texte assez intéressant sur le site de débat qui s'appelle AOC, qui est un site de débat numérique, et le texte est... comment libérer la parole ? C'est quelqu'un qui s'appelle Cyril Lemieux. Et lui, ce qu'il dit, c'est depuis donc, ces événements, depuis le 7 octobre, c'est assez compliqué d'avoir des distanciations individuelles et collectives par rapport à ce qui se passe. Et que pour lui, parler, ça doit être sujet à certaines règles. Et... Donc voilà, il essaye de dénoncer comment il faudrait faire pour que la parole soit intelligible et sensée. Et il dit qu'en fait, il y a des mots excessifs, inadaptés, Il y a des invocations souvent péremptoires de faits inexacts, de raccourcis historiques trompeurs, et qui, parce qu'inexacts et trompeurs, ils vont toujours plus que les faits exacts et les versions complètes assouvir soit des soifs de justice ou de libération. Donc ça, faire attention à ça. Mais il ne faut pas pour autant s'imposer de se taire dans ce débat. Donc, si on doit dénoncer, il dit que la dénonciation elle doit toujours se dire du point de vue de l'universel, indépendamment de l'identité de la victime ou du persécuteur, et que la dénonciation elle doit être dénaturalisante et elle doit interroger le contexte sociopolitique et le contexte historique. Et il dit qu'en France, que tel énoncé, par rapport à tel énoncé, serait disqualifié à partir de l'identité du locuteur qui est supposé appartenir à telle communauté ou à telle autre, et qu'ainsi, la citoyenneté aussi, elle cesse d'être découplée de l'origine ethnique et religieuse. Donc c'est très embarrassant. Et de fait, il dit que de par là même, il y a comme une transmutation des droits en des devoirs. Donc il n'y a plus trop de citoyenneté, il n'y a plus trop de droits, c'est des devoirs. Comme tout juif de France devrait critiquer ouvertement le gouvernement israélien, et tout arabo-musulman devrait ouvertement condamner les attentats du Hamas comme des devoirs exigibles d'eux. Et ça, c'est quand même problématique. Et l'autre problème, c'est que les camps qui s'affrontent, ils sont envisagés comme des groupes homogènes, idéologiquement unitaires, où on ne prête aucune attention à leur différenciation sociale et conflits politiques internes. Et ça, c'est assez problématique. Et vous avez travaillé beaucoup sur la question de l'universalisme, et je voulais savoir, voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Écoutez, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et on a décidément des références communes, beaucoup aimé ce texte de Cyril Demieux, qui est véritablement en accord avec ce que je pense. Il dénonce très clairement l'obligation de parler en quelque sorte au nom d'identités qui sont pourtant identités, comme vous venez de le dire, relativement incertaines, relativement floues, puisque on prête une homogénéité à des entités culturelles qui n'en ont pas nécessairement. Donc en fait, la question que l'on pose doit être soumise à des exigences, et il le dit très clairement, dont celle de la vérité. Il est clair que si l'on parle uniquement en tant que, on ne peut pas, on a beaucoup de débats concernant par exemple ce qu'on appelle l'épistémologie située, c'est-à-dire qu'au fond, si on ne parle qu'en tant que membre d'un groupe auquel souvent on est assigné sans pour autant toujours se reconnaître, on perd de vue, bien évidemment, l'horizon universaliste, et ce que dit très bien dans ce texte court Cyril Lemieux, que j'essaye moi aussi de dire dans d'autres circonstances, c'est-à-dire que l'universalisme doit rester l'horizon, si vous voulez, parce que au nom de quoi se battrait-on, au nom de quoi voudrait-on l'émancipation, sinon au nom de valeurs universalisables. Et il est clair que dès l'instant où on met en cause l'universalisme par ce qu'il serait le produit d'une histoire, celle en l'occurrence de l'Europe, et qu'il aurait servi, et tout ça est vrai, hein, mais ça ne suffit pas, à mon avis, comme je dis, à jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'il aurait servi une histoire de meurtre, de colonisation, puisque c'est au nom de ces valeurs universelles qu'on a voulu imposer à certaines populations jugées devant être éclairées par nos lumières, un certain nombre de choses abominables. Et le crime de la colonisation, on a du mal encore en France à en faire un inventaire suffisamment, je dirais, critique. On en est quand même assez loin, même si, à mon sens, aujourd'hui, les choses bougent, des livres importants sont effectivement publiés, des émissions de télévision comme celle, il y a quelques années, sur France 2, qui s'appelait « Décolonisation du sang et des larmes », on commence, me semble-t-il, à mettre en avant l'horreur de la colonisation. Mais le texte de Lemieux est très important, parce qu'effectivement, au sein de chaque groupe, au sein de chaque camp intellectuel, il faut penser effectivement à ce qu'il appelle la différenciation interne. Nous ne sommes pas des groupes homogènes, mais on est souvent quand même un peu assigné à dire des choses qui sont conformes avec ce que, en quelque sorte, la fidélité à un groupe donné nous impose. Ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter.
Et donc, ça va nous faire une introduction donc, à vos ouvrages. Donc, dans le livre la haine de l'antiracisme, qui sont des conversations que vous avez avec Régis Mérand, donc c'est un peu c'est un livre de dialogue, et vous répondez à un moment à une question par rapport à l'universalisme, et vous dites que l'universalisme en soi, il appartient ni à l'Occident, ni à une autre entité culturelle, mais qu'il appartient à l'humanité. Donc l'humanité, c'est ceux qui sont privés de droits, qui sont privés de liberté d'agir et de penser. En gros, c'est ça pour vous, l'universalisme.
Oui, à l'humanité, et en particulier, il sert à ceux qui, comme je le disais tout à l'heure, au nom de quoi se battrait-il, à ceux qui sont dans une situation de domination, de ségrégation, de discrimination. Il faut oublier en quelque sorte à quoi il a pu servir et se rendre compte qu'il a été dévoyé en quelque sorte. Et il reste dévoyé encore par beaucoup, puisque si on parle de problèmes qui sont peut-être un peu plus franco-français que ceux que nous venons d'évoquer, il est clair que l'universalisme à la française, dont l'idéal n'est pas condamnable en soi, l'universalisme, si vous voulez, caractérisé par l'indifférence à la différence. Non pas que les universalistes à la française ignorent qu'il existe des différences, mais ils ne reconnaissent pas ça comme quelque chose de relativement pertinent, parce qu'ils pensent que reconnaître des droits à des entités culturelles au nom des différences, et au nom souvent, ça c'est moi qui l'ajoute, de l'histoire d'oppression subie, c'est mettre en cause le modèle unitaire de la République. Alors, pendant longtemps, cet universalisme à la française a réussi l'intégration individuelle de populations venues d'ailleurs. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. Elles sont beaucoup plus compliquées, d'abord parce qu'on est dans une période, comme je le disais il y a un instant, où certains demandent des comptes. Et quand on demande des comptes, on fait un peu l'inventaire du passé pour se rendre compte que ce passé n'est pas aussi brillant que certains veulent le faire croire. Vous savez, là, il y a une historienne qui s'appelle Suzanne Citron, que j'aime bien citer parce que elle disait de façon, à mon avis, très très suggestive, que la France n'a pas commis les crimes qu'elle a commis, bien qu'elle ait été la patrie des droits de l'homme, mais parce qu'elle était la patrie des droits de l'homme. En quelque sorte, le fait d'être la patrie des droits de l'homme nous donne une sorte de blanc-seing moral et politique pour commettre des choses au nom de valeurs supposées supérieures, mais qui en réalité s'imposent avec violence à des populations qui doivent les accepter sans pour autant que elles aient fait leur cheminement. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir des choses assez aberrantes, que je condamne évidemment. Face aux droits de l'homme, on a cherché à nuancer leur champ d'application en disant « oui, mais il y a des valeurs asiatiques, il y a des valeurs africaines, etc. » Tout ça, évidemment, ne tient pas la route, mais c'est une réaction devant la violence avec laquelle parfois s'imposent des idéologies eurocentrées, en quelque sorte. Il faut décoloniser l'Europe, comme le dit très bien l'historien postcolonial Chakrabarty, qui dit clairement qu'il faut provincialiser, c'est-à-dire que l'Europe ne doit plus être au centre de la réflexion et se rendre compte qu'ailleurs aussi, on peut réitérer, réinventer les valeurs universelles, leur donner une coloration locale. Vous savez, j'ai travaillé sur le cosmopolitisme et un de mes philosophes préférés, Kwame Anthony Appiah, parle d'un cosmopolitisme enraciné. Ça veut dire qu'il faut tenir compte aussi de ce qui est propre à une culture, un espace de civilisation, et ne pas imposer d'en haut, par ce qu'on appelle l'universalisme ou le surplomb, des valeurs, même si ces valeurs sont parfaitement défendables. Il faut les rendre universalisables par la démocratie, par l'argumentation, par la rationalité, mais pas par la violence, bien évidemment. Et souvent, on a fait les deux. On a dit que la raison, la rationalité supposée, impliquée pour être comprise, l'exercice de la violence. C'est évidemment une erreur majeure, et une erreur majeure qui se reproduit dans notre contemporain de façon assez régulière. C'est une erreur commise par l'Occident en Irak, en tout cas les Américains et leurs alliés en Irak. Le résultat est que, on en revient au début de la conversation, au fond, c'est en voulant déconsidérer l'autorité palestinienne que le Hamas a été favorisé. De même, en voulant combattre le communisme, on a pu être favorable aux talibans. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas combattre le communisme, en tout cas dans sa version stalinienne, du moins dans sa version soviétique. Mais, bien évidemment, on prend énormément de risques si on croit qu'en encourageant des mouvements fanatiques, obscurantistes, on va combattre efficacement une idéologie autre. Les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis.
Et sur ces bonnes paroles, on va faire la pause musicale. Sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter La Souris Déglinguée. C'est aussi un hommage au chanteur Tai Luc qui lui aussi décédé tout récemment. Et le titre du morceau, c'est « As-tu déjà oublié ?» Et vu que ça parle un peu de racisme et d'étrangers, on va donc venir au livre donc, « La haine de l'antiracisme » que vous avez rédigé. Et on va peut-être s'attarder sur... Petite question qui taraude, donc que vous dites par rapport à cet universalisme, c'est l'horizon de l'égalité universelle qui anime le combat antiraciste. Mais bon, voilà, depuis quelques années, il y a eu des débats internes au mouvement antiraciste avec des nouvelles questions qui sont arrivées. Et voilà, plusieurs débats, quelques clivages qui se forment. Peut-être des fausses oppositions, comme on pourrait les qualifier, comme vous dites, un peu une fausse opposition entre l'antiracisme moral et l'antiracisme politique, qui n'a peut-être pas lieu de se faire. Et on va peut-être un peu s'attarder, donc par rapport, vu qu'il y a, on va peut-être s'appuyer sur des exemples d'actualité quotidien par rapport donc à, on va revenir au conflit israélo-palestinien et ses répercussions surtout en France et dans les débats en France par rapport au, au racisme et par rapport à des questions d'antisémitisme, aussi des questions d'islamophobie et de qui a un nouvel usage très problématique de gens qui appellent, qui qualifient de racisme anti-blanc. Et on va voir comment c'est dans les débats internes au mouvement antiraciste que se sont déployés plusieurs concepts très problématiques, tant chez certaines catégories qui se réclament de l'antiracisme politique et du courant décolonial, que chez certaines personnes qui viennent de la gauche, dont Pierre-André Taguieff et d'autres, qui insistent sur le l'antisémitisme et ce qu'ils appellent la judéophobie, et dont ils incriminent en particulier les populations arabo-musulmanes et plus trop l'extrême droite comme avant. Et voilà, et y a beaucoup de questions ont agité beaucoup le médiatique et intellectuel, mais voilà, il faudrait... Vu que c'est assez compliqué, il faudrait qu'on prenne un peu de temps pour expliquer de quoi il en retourne. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de commencer là-dessus. Voilà.
Oui, bien sûr, vous avez dit énormément de choses, donc je ne vais pas forcément me souvenir de tout. Mais je rectifierai une toute petite chose. Ce n'est pas réellement un débat interne au sein de l'antiracisme, parce que c'est un clivage considérable, parce que pendant longtemps, l'antiracisme dit moral... qui était l'héritage, si vous voulez, des déclarations UNESCO d'après-guerre, 50-51, fondées sur l'idée que la race, en tant que catégorie biologique, mais il est juste, évidemment, que la race en tant que catégorie biologique n'existait pas chez les humains. Et on a, si vous voulez, pendant longtemps, on s'est contenté de cette protestation morale. Le racisme, disait-on, c'est le mal, et il faut le combattre en tant que tel. Et puis... est né un courant qui a porté ce nom d'antiracisme politique, enfin, il y a d'autres façons de l'appréhender, mais qui est construit, si vous voulez, sur l'idée que l'antiracisme moral a échoué. Il a échoué parce que le racisme n'a pas vraiment reculé, du moins, peut-être a-t-il reculé, mais il reste extrêmement présent. Et une des oppositions, enfin, il y en a plusieurs, mais une des oppositions, vous avez parlé de racisme anti-blanc, ça me fait penser à ça. Une des oppositions, c'est que l'antiracisme moral avait tendance, toute généralisation est suspecte, évidemment, on peut se tromper, mais avait tendance à considérer le comportement raciste comme le racisme comme un comportement, une attitude, une opinion individuelle et strictement individuelle. Et vous parlez de Taguieff, il illustre parfaitement cette idée-là, puisqu'un de ses livres s'appelle « L'antiracisme devenu fou » avec comme sous-titre le racisme systémique et autres fables. Donc, si vous voulez, l'opposition, c'est entre ceux qui voient la dimension strictement individuelle du racisme, que je ne nie absolument pas, et ceux qui voient le racisme comme un rapport social, c'est-à-dire qui mettent en avant la responsabilité de certaines structures dans la reproduction des phénomènes, et qui rendent possible l'idée exprimée par un Américain, mais qui me paraît transposable, un Américain qui s'appelle Bonilla Silva, en 2003, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le racisme sans les racistes », et en anglais. Mais là, c'est pas traduit. Et il se trouve qu'on a, dans les institutions, si vous voulez, des gens qui reproduisent un certain nombre de schémas sans même savoir que ces schémas-là sont racistes. Et là, en ce qui concerne les États-Unis, c'est évidemment l'esclavagisme, la ségrégation raciale qui est à l'origine de tout ça. Mais nous, les structures coloniales, c'est un débat évidemment qui est loin d'être achevé, l'ordre colonial, en quelque sorte, semble encore être présent dans les mentalités et dans les comportements. Donc ma position sur cette question antiracisme moral et politique, c'est que l'antiracisme politique, il doit nécessairement considérer que l'antiracisme en tant que tel est une protestation morale, mais évidemment, on ne peut pas s'arrêter à la protestation morale, il faut politiser la question, et voir comment on peut faire reculer ce phénomène. Et ça suppose prendre en compte le sentiment des populations, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, des populations racisées. Mot qui est souvent considéré comme l'indice qu'on se complaît dans une identité raciale, alors que il faut bien se rendre compte que la racisation, c'est le raciste qui l'opère. Le raciste raciste, c'est-à-dire qu'il attribue une identité raciale auquel il assigne un groupe humain, identité qui est considérée comme définitive. Je rappelle souvent la définition que donnait Albert Memmi et qui me paraît toujours très largement défendable du racisme. Il l'a donnée bien avant 81, mais enfin elle a été popularisée en 81 par l'article dans l'Encyclopédia Universaliste. Et il disait « Le racisme, c'est la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires. » Essentialisation, c'est essentiel parce qu'évidemment, on ne peut pas revenir en arrière. Les différences, elles peuvent être imaginaires. Et cette essentialisation de ces différences, au profit de l'accusateur et au détriment de la victime, afin de légitimer un privilège ou une agression. Et on est véritablement, je crois, assez largement dans la compréhension de tous les phénomènes racistes. Et donc, les jeunes chercheurs, et notamment jeunes chercheuses, ont perçu que, au fond, si bien entendu la race biologique n'existait pas, la race en tant que construction sociale, elle existait au moins dans la tête des racistes. Et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. On ne peut pas faire comme si la différence raciale n'était pas dans l'ordre social bien présente. Quoi qu'on puisse le regretter, encore une fois, un universaliste conséquent aimerait bien qu'il n'en soit pas ainsi, qu'on soit véritablement indifférent à la différence. Mais les racistes racisent et ils créent effectivement ces différences, et ces différences créent un rapport social défavorable à ceux qui sont racisés. Voilà, donc le débat, il est largement là. Je n'ai certainement pas répondu à toutes vos objections, à toutes vos questions, mais je termine quand même sur le racisme anti-blanc, parce que c'est un faux problème. Le racisme anti-blanc, selon la définition qu'on donne du racisme, existe ou n'existe pas. C'est bien évident que des tas de gens autres que des blancs peuvent être racistes à l'égard des blancs. Donc, ça, hélas, c'est quelque chose d'assez communément partagé. Mais le racisme à l'égard des blancs, dans un pays démocratique à majorité blanche, donc prenons la France, il n'est pas un rapport social. Il se limite, c'est déjà grave, mais il peut se limiter à des coups, des injures, voire des assassinats. Mais il n'entre pas dans la logique du rapport social, puisque le blanc en tant que tel, j'y insiste, le blanc peut être pauvre, et ma phrase n'aurait pas de sens si on allait à englober dans cette démonstration que j'essaye de faire la situation de certains blancs. Mais en tant que blanc, il n'est pas victime de discrimination au travail, il n'est pas victime de discrimination à l'emploi, il n'est pas victime de discrimination sociale au point de vue de la ségrégation spatiale, il n'est pas victime de discrimination à l'école, etc., etc. Enfin, tout ça, le blanc n'y est pas soumis, en quelque sorte. Et c'est pour ça que la thèse du racisme dit systémique, je n'aime pas trop le mot, et je dirais éventuellement pourquoi, me paraît plus englobante, si vous voulez. C'est comme dans science, on progresse par des théories qui ne renvoient pas nécessairement les théories précédentes aux oubliettes, mais qui élargissent le spectre. Et le racisme dit systémique, il élargit le spectre. Moi, je dirais plutôt racisme structurel que systémique, parce que ce n'est pas une bonne idée de faire croire que le système produit. Et ça déresponsabilise les racistes, en quelque sorte. Pas plus que de les pathologiser en disant « ce sont des fous dangereux ». Il y a une responsabilité du raciste, il n'en reste pas, enfin, en tant que tel, il n'en reste pas moins que les comportements des racistes se cristallisent dans des institutions qui produisent à leur tour des conditions d'exercice de leurs fonctions qui sont discriminantes. Voilà. Et donc ça, ne pas en tenir compte, comme le font les anti-antiracistes, c'est-à-dire, vous avez cité Taguieff et bien d'autres, Taguieff a une responsabilité particulière parce qu'il a été un théoricien du racisme dans les années 80 et qu'il a joué un rôle non négligeable, et comme vous le disiez, il venait de la gauche, mais désormais, effectivement, il a abandonné ses anciennes amours. Et c'est vrai qu'il y a là un glissement, et de ce glissement, la question que vous avez évoquée de l'antisémitisme joue un rôle assez important, parce qu'on reproche aux antiracistes politiques, certains du moins reprochent, d'être antisémites. Et il est vrai que certains le sont. Mais le fait que certains le sont disqualifie leur antiracisme, mais ne disqualifie pas l'antiracisme en tant que tel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire antiraciste et antisémite, mais en revanche, il est bien évident que l'antiracisme politique n'est pas mis en péril en tant que tel par l'existence au sein de ceux qui s'en réclament, de personnes qui font acte d'antisémitisme, généralement par la profession d'un antisionisme radical qui refuse le droit à l'existence d'Israël. Car il ne faut pas confondre, je ne l'avais pas dit dans la première intervention, il ne faut pas confondre le droit à la critique de la politique israélienne avec la volonté de nier la légitimité de son existence. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et en passant, je dirais que le terme antisioniste est un terme dont il faudrait se débarrasser, puisqu'il n'a qu'un sens historique. On est antisioniste avant qu'Israël n'existe, quand on n'est pas d'accord avec la solution sioniste, c'est-à-dire la solution d'un État indépendant pour les Juifs. Le mouvement Bund en Israël, en Pologne notamment, en Europe de l'Est en général, était très opposé au sionisme. Et là, le sens d'être antisioniste est parfaitement compréhensible. Aujourd'hui, soit on est critique de la politique israélienne et le mot antisioniste ne convient absolument pas, soit on est défavorable à l'existence d'Israël en tant qu'État et défavorable. On souhaite sa disparition, auquel cas on est antisémite.
Tout à fait. Et c'est une très bonne conclusion. Et ça va nous introduire à la dernière partie où on a quelque chose de plus spécifique. Et justement, on va s'attarder là-dessus. Mais avant, on va faire la dernière pause musicale. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter encore le groupe La Souris Déglinguée et le titre du morceau, c'était Jeunes Voleurs. On va finir donc notre entretien avec Alain Policard donc par rapport à son ouvrage La haine de l'antiracisme. Et oui, donc on voulait juste finir à évoquer par rapport à, donc on avait parlé donc de cette question-là avec Pierre-André Taguieff, hein, qui avait fait un virage à 180 degrés de la critique du racisme par rapport à la critique de l'antiracisme, ou d'une forme d'antiracisme. Et lui, en tout cas, dans son cheminement intellectuel, comment il avait formulé, lui, c'en était, c'était nourri par ce que lui, il avait ressenti comme une nouvelle, un nouvel antisémitisme ou une nouvelle judéophobie qui serait spécifique à une population arabo-musulmane, donc de, qu'il culturalise de fait ou il de, qu'il racialise de fait et qu'il voilà. Et d'autre part, c'est aussi c'est une période hein, donc qui est marquée par ce qu'on appelle la, la seconde intifada, donc c'est les années 2000 où il va y avoir la première occurrence du racisme anti-blanc avec ce qu'on a appelé un appel contre des ratonnades anti-blancs qui avaient eu lieu de, lors de manifestations de jeunes. Mais c'est en fait, c'est, cet appel, il vient aussi de groupes qui sont un peu, qui, un peu les mêmes idées plus ou moins que André-Pierre Taguieff, d'ailleurs, qui avait signé leur appel, parce que c'était des groupes qu'il y avait des manifestations à la seconde intifada qui avaient ressenti une certaine antisémitisme. Donc, il y avait vraiment des poussées d'antisémitisme très, très virulents à cette période-là. Et donc, il y avait pointé donc, un côté aussi antisémite chez certaines populations qu'ils ont aussi culturalisées, essentialisées. Et suite à une manifestation qui s'était mal passée où plusieurs personnes s'étaient fait frapper par des populations, on va dire, de quartiers de quartiers populaires, et ben qui avait été ça avait été voilà cet appel de racisme anti-blanc avait été bizarrement mis en avant. Et donc cette notion était défendue donc par Alain Finkielkraut, Pierre Taguieff et tous ces gens que vous appelez donc qui sont les la figure de la haine de l'antiracisme hein, dont vous parlez dans votre ouvrage. Hein. Il y a aussi Michel Onfray, enfin bref, et toute une galaxie hein, comme ça qui se sont c'est vers cette époque-là que ça s'est structuré et que donc il y a eu un peu une accusation de certaines populations d'être non seulement antisémite, mais aussi attentoire à la laïcité et d'homophobie, enfin, qui serait le visage de l'antisémitisme, de l'homophobie, etc., en les culturalisant beaucoup. Mais, ce qui est assez scandaleux, il faut bien le dire, et vous en parlez dans votre ouvrage, mais aussi, ce qu'il faudrait dire, et ce peut-être qui a peut-être pu faire peur à Pierre-André Taguieff et peut-être d'autres personnes, c'est beaucoup d'errance dans une partie du courant décolonial. Donc on pense à un courant qui s'appelait Indigène de la République, qui n'existe plus, mais qui, sous d'autres formes, existe encore, où il y a cette idée du blanc et du non-blanc, avec une certaine forme d'accusation décoloniale du blanc comme étant coupable par essence et qui était très, très maladroit dans les termes mais quand même très diffus qu'on a pu voir avec ces histoires de conflits israélo-palestiniens, beaucoup de positions de gauche et d'extrême gauche avoir un discours un peu comme ça, très, très ambivalent. Et je pense que là, c'est vraiment les gros écueils, autant du cours de ce qu'on a peu appelé le républicanisme, qui a inventé le racisme anti-blanc. D'ailleurs, repris dernièrement là, par rapport par l'extrême droite qui fait des ratonnades dans la Drôme ou ailleurs, que sais-je, qui se sert de ce terme-là. Mais il faut faire aussi très attention à. Il ne faut pas occulter non plus toutes les dérives qui viennent de certains courants décoloniales qui aussi racialise aussi. Et comme le disait Frantz Fanon, il disait aux Noirs, « Noirs, quand on dit du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle aussi de vous. » Donc c'est plutôt là que devrait se tenir l'antiracisme. Je sais pas, c'était juste pour conclure.
Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Cette phrase de Fanon est très importante. En vérité, c'est lui qui la rapporte, c'est son professeur qu'il avait prononcé, il la rapporte dans ses écrits, elle est très importante. Pour revenir à l'histoire du racisme anti-blanc, effectivement, qui est importante, hein, le terme de racisme anti-blanc a tout de même un ancêtre, je dirais, c'est un ancêtre qui date de 85, c'est le racisme anti-français de Jean-Marie Le Pen. Et l'histoire du racisme anti-blanc, ça ressort 20 ans après dans l'appel que vous avez mentionné. Vous avez cité Taguieff, Finkielkraut, il y avait également Kouchner et Julliard. Et Julliard qui a passé sa vie en partie à s'occuper du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste, qui était quand même dans une gauche certes pas extrêmement radicale, mais incontestable, ces dernières années, avant de mourir tout récemment, tourné vers le souverainisme et vers, en quelque sorte, ce qui est un nationalisme comme un autre, parfaitement opposé aux valeurs internationalistes par définition. Donc le racisme anti-blanc, les nouvelles antisémitismes, tout ça c'est une configuration idéologique intéressante. Il faudrait y ajouter, je crois, que Taguieff lui-même considère que le nouvel antisémitisme, qui est, vous l'avez rappelé, un antisémitisme qui serait spécifiquement arabo-musulman, et qui, de fait, fait semblant d'oublier que l'antisémitisme existe évidemment de façon extrêmement profonde et vive à l'extrême droite, eh bien cette thèse de l'antisémitisme est considérée comme une caractéristique de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire qu'en fait c'est une configuration, on a des gens qui sont essentiellement, vous l'avez signalé, des gens qui réagissent aux événements du Proche-Orient, non pas que, il faut être extrêmement prudent parce que je pense que les réactions des jeunes arabo-musulmans à ce qui se passe au Proche-Orient déclenchent des actes antisémites incontestablement et c'est un rapport causal peu discutable, enfin, une corrélation qu'on peut considérer comme un rapport causal. Mais il va de soi que ça n'est qu'un révélateur, je dirais presque un prétexte pour exprimer de l'antisémitisme. Donc je crois qu'on ne peut être extrêmement ferme dans l'énonciation de la thèse du nouvel antisémitisme que si on admet qu'il y a une certaine propension que l'on peut absolument analyser et comprendre de certains jeunes qui, en quelque sorte, se considèrent comme des incultes d'histoire, qui ont une part de ressentiment et qui sont souvent déclassés, qui sont souvent déqualifiés ou sous-qualifiés, un certain ressentiment qui s'exprime par cette haine à l'égard du blanc et éventuellement à l'égard du juif, qui, comme vous avez cité, les Indiens de la République, et notamment, vous n'avez pas cité Ouria Boutelja, mais vous savez qu'elle a écrit un livre qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous », où elle émet la thèse qu'au fond, les Juifs sont des Blancs et des Blancs qui, en quelque sorte, incarnent plus que d'autres la domination blanche, et s'ils ne veulent pas être considérés comme tels, il faut qu'ils fassent alliance avec les courants décoloniaux. Alors, racisme anti-blanc et nouvel antisémitisme, c'est antérieur à la percée, si j'ose dire, en France des études décoloniales. Et donc, c'est pas maintenant, aujourd'hui, vous avez raison, Taguieff et d'autres s'en prennent beaucoup aux études décoloniales. Et moi, je suis critique également, mais eux, ils considèrent qu'il n'y a pas la moindre rationalité, que ce sont des études qui n'ont aucun intérêt, alors que ces études décoloniales ne sont pas sans lien avec ce qui a pu précéder, à savoir l'anticolonialisme classique ou l'étude postcoloniale, et elles naissent d'une critique radicale de la modernité qu'elles assimilent à la colonialité. Tout n'est pas à rejeter, elles mettent en avant des injustices subies, et devant ça, je crois que le déni n'est pas la meilleure attitude.
Tout à fait. Et par rapport à... C'est juste pour introduire la prochaine émission, vu qu'on va recevoir Nona Meyer par rapport à l'antisémitisme.
Et mon ami Nona Meyer.
Tout à fait. Et c'est juste pour dire que vous avez publié avec elle et co-dirigé avec elle et Philippe Corcuff l'année dernière. Il y a un livre qui s'appelle Les mots qui fâchent, hein, si ma mémoire.
On va ressortir en poche en janvier.
Voilà, voilà. Et donc c'était juste, on va parler de ça. Donc voilà, c'est un peu des gens qui se connaissent et on va peut-être sûrement parler des mêmes choses, mais bon, c'est des voix différentes, c'est pas plus mal.
Elle est bien plus à l'aise que moi parce que elle étudie au sein de la Commission consultative nationale des droits de l'homme le phénomène sur une très longue période. C'est en France la meilleure spécialiste de cette question.
Et c'est pour ça qu'on l'invite.
Vous avez eu raison.
Et ben, on vous remercie pour cet entretien et on vous souhaite une bonne continuation.
Je vous remercie, moi aussi. Au revoir.
La tête dans l'étagère. Une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.